L'homme né pour la liberté aime souvent mieux se faire corsaire que de devenir esclave. Beaumarchais. Ans d'histoire. Il s'appelait Francis Drake, Walter Raleigh, Jean Bart, Duguay-Trouin ou Robert Surcouf. Partant de Saint-Malo, de La Rochelle, Plymouth ou Dunkerque, pendant plus de trois siècles, ils ont écumé tous les océans du monde pour leur propre compte et celui des rois d'Angleterre ou de France qui faisaient appel à eux quand leur marine était trop faible. Parce qu'ils se battaient pour un État, ces corsaires ne risquaient pas le gibet auquel étaient promis les pirates, même si leurs victimes ne faisaient pas la différence entre ces aventuriers, comme celui qui, au XVIIe siècle, attaquait les navires espagnols dans l'Atlantique avec la bénédiction de la reine Élisabeth Ière d'Angleterre.
Walter Raleigh, Majesté,
pirata.
Est-ce un pirate?
Votre Majesté, cet homme est un pirate notoire. De l'or espagnol, volé à des vaisseaux espagnols attaqués sans la moindre provocation de leur part.
Eh bien, monsieur, que désirez-vous?
Je suis de retour du Nouveau Monde, Majesté. J'ai pris possession de son littoral fertile en votre nom et j'ai appelé cet endroit la Virginie, en l'honneur de notre reine vierge. J'ai également des cadeaux pour votre Majesté.
Ces cadeaux, Majesté, sont les fruits de la piraterie et ils appartiennent au royaume d'Espagne.
Voyons cela. Voulez-vous? Que m'avez-vous apporté?
De l'or. Grâce à l'obligeance d'un navire espagnol qui s'est trouvé dans l'incapacité de terminer son voyage.
Je ne peux accepter les fruits de la piraterie, monsieur Raleigh.
Philippe d'Espagne n'est pas votre ami, Majesté. Et plus je lui prendrai d'or et plus vous serez en sécurité.
Tiens, tiens. Un pirate stratège politique.
Et le plus loyal des sujets de votre Majesté.
Alain Berbouche, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre, Pirates, flibustiers et corsaires, qui vient d'être publié aux éditions Pascal Gallaudet, vous rappelez que la frontière, finalement, entre les uns et les autres n'a jamais été très claire. Qu'est-ce qui distingue un flibustier d'un pirate et un pirate d'un corsaire?
L'extrait que nous venons d'entendre est tout à fait parlant, dans la mesure où... même si la reine ne veut pas dire que Drake est un pirate, pour les Espagnols, il est indéniablement un pirate. Mais malheureusement, ça ne tient pas du point de vue historique, puisque Drake va être anobli
par la
reine.
Non, c'était Raleigh dont on parlait.
Mais c'est la même situation. Ouais. Ils vont être anoblis l'un comme l'autre. Ils sont vice-amiraux d'Angleterre, mais pour des exploits pirates, pas des exploits corsaires. Alors, c'est un problème de statut juridique. Au départ, purement et simplement, le pirate, c'est un bandit de grand chemin, mais des voies maritimes. Le corsaire, c'est quelqu'un qui est mandaté par son souverain ou par un prince au Moyen-Âge, puisque on a des principautés seigneuriales, notamment, qui ne relèvent pas d'un État central. Ce corsaire, ce pirate, qu'en dire, en fait, étymologiquement, le mot est le même. Corsaire, ça vient de cursus, qui signifiait, en fait, étymologiquement, tout à fait pirate au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, avec le latin de cuisine de l'époque. Donc, ce qui distingue, eh bien, c'est le statut qu'on en fait. Et vous évoquiez tout à l'heure les flibustiers. Les flibustiers sont très intéressants dans la mesure où ce sont des pirates qui vivent en particulier dans la mer des Caraïbes, où ils trafiquent, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Certains, d'ailleurs, sont des chasseurs, les boucaniers notamment, ces chasseurs de taureaux sauvages. Et quand la chasse n'est pas bonne, ils chassent les richesses des Espagnols. Ils se moquent éperdument de savoir si leur pays d'origine est en guerre ou pas avec l'Espagne. Si, coup de chance, leur pays est en guerre avec l'Espagne, ils deviennent des corsaires. Ils sont mandatés en l'absence de marine nationale, tant anglaise que française, pour attaquer les Espagnols. Et si leur pays est en paix, eh bien, ils se font pirates, ils attaquent très librement.
Au fond, pour résumer, on peut dire que la course, le travail des corsaires, c'est de la piraterie d'État, puisqu'ils sont mandatés par les États. Alors, vous faites remonter très loin cette histoire des corsaires, Alain Berbouche, vous évoquez les Vikings, vous parlez également des pirates barbaresques en Méditerranée, hein, qui ravageaient un petit peu la Méditerranée, et puis ces pratiques, cette pratique féodale des représailles pratiquée par les armateurs en fait, du Moyen-Âge. Il y avait des armateurs qui, lorsque leur bateau avait été pillé, eh bien, exerçaient des représailles sur ceux qui les avaient pillés, justement.
Oui, alors ils obtenaient l'autorisation légale, donc avec leur souverain ou suzerain local, suzerain en un premier temps, avant que la notion de souveraineté finisse par s'imposer au niveau national, tout au moins. Ils obtenaient le droit de s'emparer d'une quantité de biens identique à celle dont ils avaient été privés. Et là, on est évidemment tout à fait au confluent de la piraterie, puisque ces biens dont ils allaient s'emparer n'appartenaient pas forcément à celui ou à ceux qui les avaient eux-mêmes pillés auparavant. Donc les dégâts collatéraux font que naturellement, pour les populations qui en sont victimes, pour les armateurs qui en sont victimes, ces gens-là sont des pirates.
Alors ces armateurs obtenaient cette autorisation justement des princes et des souverains parce qu'on appelait les lettres de marque qui distinguaient les corsaires qui travaillaient pour leurs armateurs ou pour leur roi des pirates qui ne travaillaient que pour eux-mêmes.
Sachez très cher que la Compagnie des Indes requiert vos services. Des lettres de marque. Nous voudrions vous engager comme agent pour une transaction commerciale avec notre ami commun, le capitaine Sparrow. Offrez-lui l'équivalent d'une complète amnistie. Jack sera libre, un corsaire au service de l'Angleterre.
Mon amnistie et mon statut de corsaire au service de l'Angleterre et de la Compagnie des Indes. Je rêve, comme si on pouvait m'acheter au rabais.
C'était quoi ces lettres de marque à Alain Berbouche dont vous parlez longtemps, souvent dans votre livre ?
Eh bien, c'était des autorisations, donc légales, tout au moins au niveau de celui qui les attribuait, car la question qui se pose naturellement, quelle était l'étendue de leur validité ? À l'origine, la validité, je ne vous le cache pas, était extrêmement restreinte. Elle était très limitée à un champ opérationnel local pour faire en sorte que le corsaire en question, puisqu'on appelons le comme ça au sens moderne, même si, j'insiste, ce terme n'apparaît qu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, hein, ce corsaire donc ne va pas être traité comme cela en bandit des mers et ça lui évite le gibet. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Il y avait l'autorisation de représenter un souverain en belligérance, hein, donc d'être en fait en possession d'un morceau, si vous voulez, de notion de service public, on pourrait dire, surtout à partir du moment où le suzerain devient souverain et devient le légataire en matière juridique, tout au moins du droit de faire la guerre. Hein.
Mais ces souverains, ils avaient une marine. Pourquoi utiliser des corsaires, qui sont en quelque sorte des mercenaires, plutôt que leur propre marine ?
Eh bien non, justement, ils n'en avaient pas. À l'origine, il n'y en a pas. Il faut attendre quasiment, de toute façon, de point de vue durable, pour que l'institution se pérennise. En France, il faut attendre Richelieu, les années 1630, pour voir la France se doter d'une marine militaire au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Tout au long du Moyen-Âge, le roi de France, tout au moins le roi de France, qui est un peu différent du roi d'Angleterre, fait la guerre avec des particuliers qui arment en guerre, moyennant un intéressement au résultat, voire d'ailleurs un abandon complet de ce dont ils s'emparent, hein, puisque le roi les paye comme cela.
Alors c'est le cas parmi eux du roi de France, par exemple François Ier, qui justement cherche à briser, comme le font d'ailleurs les Anglais, à briser le monopole des Espagnols, et c'est ainsi qu'il va soutenir, il va aider un armateur normand de Dieppe, Jean Angot, à armer des navires corsaires.
Absolument, celui qu'on a appelé le Médicis normand, dont on peut admirer le manoir à Varangeville encore aujourd'hui. On a la date très précise d'une lettre de marque qui lui a été délivrée, d'ailleurs, je l'ai devant moi, le mercredi 27 juillet 1530. Ceci étant, ça n'empêchera pas les marins d'Angot d'être traités en pirates lorsqu'ils tombent en main des ennemis. Mmh. Car le problème, c'est toujours cela. Cette légalité n'est pas réellement admise. Elle le sera difficilement au XVIIe siècle, sachant que le tort, encore d'un point de vue droit criminel, est un peu de part et d'autre, puisqu'il y a certainement une irrégularité juridique de la part de l'ennemi qui s'empare de quelqu'un qui est quand même clairement indiqué corsaire, mais il y a aussi souvent des abus, des égarements, on va dire, de la part des corsaires, même s'ils sont bien autorisés à se livrer à leur activité.
Ils débordent souvent. Autre pays, autre souverain, autre souveraine en l'occurrence, justement à utiliser des corsaires, on l'a entendu au tout début de cette émission, c'est la reine Élisabeth Ier, la reine vierge, comme on l'a surnommée, qui, tant que sa marine était surclassée, la marine anglaise n'était pas encore ce qu'elle est devenue plus tard, eh bien, utilisait justement des corsaires contre les navires marchands espagnols. Et parmi eux, alors il y avait Raleigh, on l'a entendu, il y avait Francis Drake. Francis Drake, c'est assez extraordinaire parce que ses exploits, eh bien, il a parcouru tout l'Atlantique, et même au-delà, puisqu'on voit dans le Pacifique, Drake, il attaquait des ports, pas seulement des bateaux, mais des ports espagnols en Amérique.
Oui, il ne va pas être le seul d'ailleurs. Fréquemment, les corsaires se livrent à des descentes à terre lorsqu'ils ont la possibilité de s'emparer d'une ville, un gros village à tout le moins. Ils n'hésitent pas et ils procèdent à des descentes. Les flibustiers, notamment dans la mer des Caraïbes, vont régulièrement attaquer les villes espagnoles, les villes portugaises, aussi souvent qu'ils le pourront. La prise de Panama, la prise de Rio, ce sont effectivement des événements assez sensationnels qui vont largement entretenir d'ailleurs la légende dorée de la course. Ces corsaires sont souvent des gens extrêmement hardis parce qu'ils travaillent à leur compte.
Ou alors celui justement de la reine d'Angleterre, jusqu'à ce que l'Angleterre donc ait elle-même une marine suffisamment forte pour se passer des corsaires, mais pas assez pour défendre ses navires de commerce contre les corsaires français.
Quel pavillon va-t-il ?
C'est un bâtiment marchand anglais.
J'ai l'impression que c'est le Triton de Portsmouth. Si c'est bien lui, je sais qu'il a 3 fois plus de canons que nous.
Bon, on va lui faire regretter de ne pas en avoir 6 fois plus.
Sonnez le branle-bas, lieutenant.
D'accord, capitaine.
N'oubliez pas, la moitié du butin nous appartient. Ce soir, nous serons tous riches ou tous morts. Que choisissez-vous ? Bon, maintenant, à vos postes.
Prêt au combat ?
Arrête pour l'abordage ! À l'abordage !
Le 31, venez-moi là-haut.
Le 31, venez-moi là-haut.
On vit venir sous le ventano.
On vit venir sous le ventano.
Une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots. C'était pour attaquer Bordeaux.
Buvons un coup, buvons en deux. À la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre.
Que dira-t-on du grand Raffiot ?
Que dira-t-on du grand Raffiot ?
À Brest, à Londres et à Bordeaux.
À Brest, à Londres et à Bordeaux.
Qu'a laissé prendre son équipage par un corsaire de 6 canons, lui qu'en avait 30 et c'est bon.
Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre.
2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet.
Et c'était la plus célèbre des chansons de ces corsaires hein, qui avaient beau travailler pour les souverains, ils étaient quand même des gens de sac et des cordes. Vous citez dans votre livre, Alain Berbouche, une description de ces corsaires faite par un historien du 19e. Quand des équipages arrivaient de mer, ils s'emparaient de la ville comme du pont d'un navire pris à l'abordage. Alors il fallait faire entrer les enfants et les femmes, fermer les fenêtres et baisser les rideaux, car le regard ne pouvait tomber dans la rue sans rencontrer une image sanglante ou obscène. Mais la nuit venue, c'était bien autre. On n'entendait plus que les clameurs furieuses, cris de meurtre et hurlements d'ivrogne. La ville qui avait été tout le jour un lupanar devenait alors un coupe-gorge. Pas fréquentable, ces corsaires. Hein.
Oh, ils n'étaient pas très différents, je crois, des gens de mer de l'époque. Moi, je suis surtout un spécialiste, entre guillemets, et bien modeste de la marine militaire au XVIIIe siècle. Et la description que vous avez là, d'ailleurs, est une description du port de Brest, où il y avait surtout des gens de la marine nationale. Hein, à y travailler et à y sévir. Ce sont les mœurs des gens de mer. Bon, il est de fait que Saint-Malo, Dunkerque, Saint-Malo peut-être surtout, qui cultive ce patrimoine culturel de la course, a beaucoup de ce genre de témoignages. Mais les gens de mer avaient ce comportement. Les Terre-Neuve, en rentrant au XVIIIe siècle, se comportaient de la même façon. Mmh.
Cela dit, qu'est-ce qui les attirait? Parce que, contrairement aux Terre-Neuve, la vie des corsaires était quand même assez dangereuse. Ils risquaient leur vie. Tout de même, c'était des soldats, des marins sans uniforme, certes, mais les combats étaient quand même acharnés. C'était la prime. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs en quoi consistait cette prime, parce qu'ils gagnaient, je crois, plus d'argent que dans les marines nationales quand
beaucoup
elles sont
plus
apparues.
Beaucoup plus. Mais je reviendrai
les
sur
prises, le partage par les
deux tiers, un tiers, hein, deux tiers pour l'armateur, pour les armateurs. Souvent, ils se groupent à plusieurs lorsque les frais d'armement sont importants, et un tiers pour l'équipage, avec une répartition du nombre de parts ensuite en fonction des prises.
Et les rois qui délivraient les lettres?
Non, le roi très rapidement ne prend plus rien. Il se contente de prendre des droits d'enregistrement. Même les 10% de l'amiral sont rapidement abandonnés. Car une fois de plus, il faut bien se rendre compte qu'on encourage la course au moment où on en a besoin. Donc il faut que cet encouragement soit un encouragement financier. Donc, contrairement à la légende, le roi ne prend quasiment plus rien à partir du XVIIe siècle.
Alors vous citez les ports justement où les corsaires se sont rendus célèbres, leurs ports d'attache, vous en citez quelques-uns, Plymouth bien entendu en Angleterre pour les corsaires anglais, et puis surtout deux ports français dont l'un est très connu bien sûr, c'est Saint-Malo, l'autre c'est Dunkerque qui a même été plus important que Saint-Malo comme nid de corsaires entre guillemets, et c'était la ville de Jean Bart. Parmi les corsaires que vous citez, il y en a qui sont plus ou moins importants, certains dont on a oublié le nom même s'il était porté par des navires de guerre français beaucoup plus tard, et Jean Bart parmi eux était un personnage tout à fait extraordinaire.
Alors Jean Bart est un personnage tout à fait extraordinaire en effet de par ses origines. Les origines, alors qui étaient les corsaires justement, on peut peut-être en dire un demi-mot rapide, c'était des gens de mer normaux, c'était des marins, c'était des pêcheurs qui ne pouvaient plus exercer leur activité habituelle en période de guerre et qui se reconvertissaient momentanément dans la chasse au butin. Alors Jean Bart est effectivement un personnage tout à fait extraordinaire, cette espèce de géant, il fait près de 2 mètres, c'est un fils de pêcheur illettré. Et lui va faire une très belle carrière, puisqu'il va intégrer la marine militaire où il finira au grade de chef d'escadre.
Et après s'être distingué, vous citez un exploit de Jean Bart,
notamment.
Au Texel, il prend une flotte de 110 bâtiments transportant des blés norvégiens destinés à la France, et avec seulement 7 bâtiments d'un rang inférieur à celui des ennemis. C'était des bateaux, d'ailleurs, souvent ils ne s'attaquaient à des bateaux de commerce que parce qu'eux-mêmes étaient des petits bateaux de guerre.
Alors vous avez tout à fait raison, et ça me permet de revenir à cette réalité qui va un peu à l'encontre de la légende. Est-ce que les corsaires se battaient? Est-ce qu'il y a vraiment des hécatombes de corsaires? On a trouvé des chiffres. Mon ami Patrick Villiers, notamment, a fait des recherches sur archives assez longues là-dessus. Il a trouvé, par exemple, que sur 23 201 corsaires français embarqués entre 1692 et 1763, 133 meurent au combat. Seulement 133.
Oui.
On sait également qu'au moment des guerres de la Révolution et de l'Empire, ma collègue Florence Le Guélaf a relevé 1651 décisions du Conseil des Prises. Vous savez, c'est la juridiction qui va répartir, qui va donner d'abord la validité ou non des prises et les répartir. Eh bien, elle n'a trouvé que 75 combats. Mmh. 75 combats, 18 abordages, c'est-à-dire insignifiant.
Alors cela dit, quand même, on a cité Jean Bart, il y en a un autre dont on a également oublié le nom, qui lui était de Saint-Malo, comme vous d'ailleurs je crois, Alain Berbouche, et qui était du Guétrouin. On a complètement oublié son nom, et là encore ce sont des exploits étonnants, notamment par exemple le fait que du Guétrouin s'en prend carrément lui aussi à des villes. Il y a une expédition de du Guétrouin au Brésil, et il va tout simplement carrément s'emparer de Rio.
S'emparer de Rio au mois de septembre 1711, c'est un exploit tout à fait considérable, car là c'est un exploit militaire, même si on peut le qualifier de corsaire de par la hardiesse du procédé. Et du Guétrouin est un personnage évidemment tout à fait intéressant, un peu injustement oublié, même à Saint-Malo, où il n'a pas le prestige local qu'a par exemple Jean Bart dans sa bonne ville de Dunkerque. Du Guétrouin veut faire une carrière militaire prodigieuse, puisqu'il a une jeunesse, comme je l'explique, un peu dorée, disons, de jeunes malouins corsaires hardis, mais il accepte, lui, à l'encontre d'autres, d'intégrer la marine royale, et il va finir au rang de vice-amiral, vice-amiral actuel, c'est-à-dire lieutenant-général, comme on l'appelait à l'époque, et encore, s'il ne finit pas vice-amiral plein, de l'époque, donc, qui correspondra à un vice-amiral d'escadre aujourd'hui, ou maréchal de France peut-être même, c'est faute de guerre, il meurt prématurément.
Un enfant de Saint-Malo, d'ailleurs, comme le plus célèbre corsaire de l'histoire de France, le roi des corsaires, au service de Napoléon.
Le capitaine Robert Surcouf.
Qu'il entre.
Votre Majesté.
Vous connaissez le gouverneur Malartic ?
Oui, sire.
Il m'a rappelé aux états de service, dans l'océan Indien. 45 navires anglais capturés. Vous connaissez les îles Seychelles ?
Aux Seychelles ? J'y ai souvent lâché pour m'approvisionner.
Les Anglais sont emparés de Mahé, capitaine.
Je vous confie le commandement de deux vaisseaux de ligne puissamment armés. Et je vous donne autant d'hommes que vous voudrez. Vous ne dépendez que de moi.
Majesté, j'ai mon bateau, le Revenant, et j'ai mon équipage. Si votre Majesté me permet de mener cette affaire comme je l'entends, l'ennemi se mordra les poings de nous avoir chassés de Mahé.
Entendu. Merci, capitaine. Je vous souhaite bonne chance.
Surcouf, le temps est beau, vent dans les voiles, claque la toile, le jour est déjà haut, sur les remparts de Saint-Malo, fort bleu.
De tous les corsaires que vous citez dans votre livre, Alain Berbouche, Surcouf est sûrement celui qui est resté le plus célèbre aujourd'hui, alors que vous dites qu'au fond, sa réputation était un peu, peut-être, surfaite, sa réputation de roi des corsaires.
Bien, je suis désolé de le dire, mais je ne suis évidemment pas le premier à le dire et à le prouver. D'autres l'ont fait avant moi, je pense notamment à Alain Roman qui vient de sortir une magnifique biographie de la famille Surcouf et de Robert Surcouf en particulier. Surcouf est tout à fait un produit légendaire, c'est devenu une marque déposée quasiment à Saint-Malo. Alors Surcouf, entendons-nous, c'est un magnifique marin, c'est un homme d'exception, mais c'est le contraire de Duguay-Trouin qui est corsaire et qui devient marin du roi. Surcouf refuse d'intégrer non pas la marine impériale mais la marine du consulat, donc on ne lui propose pas d'ailleurs le commandement de deux vaisseaux de ligne, on lui propose le commandement de deux frégates et il refuse parce qu'il préfère continuer à travailler à son compte. Et il ne se bat jamais contre des navires de guerre. Jamais. Je le montre dans mon livre, mais une fois de plus, je ne suis pas le seul à le faire. Quand il croise une frégate, il ne croise même pas un vaisseau, et il va jusqu'à jeter ses canons à la mer, ou la plupart de ses canons, acceptant le principe donc de ne pas mourir pour rien. Et de fait, quand on regarde les navires avec lesquels il pratique la course, qui sont des frégates légères en réalité, aucune ne pourrait de près ou de loin soutenir le feu d'une frégate de rang, notamment de la Cybèle, qui va lui faire lui occasionner de belles peurs dans l'océan Indien.
L'océan Indien, parce qu'on n'a pas parlé, mais c'était effectivement le royaume, si on peut dire, le terrain de chasse plutôt de Surcouf.
Oui, tout à fait, un terrain de chasse extrêmement fructueux, où il va pouvoir s'emparer de riches bateaux, notamment le Triton, notamment le Kent, la fameuse prise du Kent qui va en faire le roi des corsaires. En réalité, le Kent n'est évidemment pas du tout, contrairement à ce qu'on prétend, un navire de guerre. C'est un gros cargo de commerce qui est certes bien armé, mais ça n'est pas un navire de guerre. La taille équivalente du Kent nous aurait donné presque le Victory, et à aucun moment une frégate légère n'aurait pu s'approcher d'un navire pareil.
Alors Surcouf, c'est sous l'Empire. Or, il se trouve que la vie de Surcouf correspond à peu près au moment où l'on critique déjà depuis plusieurs années la course. Elle est critiquée d'abord pour des raisons morales par les philosophes des Lumières.
La course est critiquée, effectivement, et la course est critiquable, je crois, dans la mesure où elle frappe injustement souvent des particuliers. Imaginez, vous prenez un bateau pour circuler, pour effectuer un voyage, des corsaires arrivent, ils vont s'emparer de vos biens. Or, vous n'êtes pas forcément en guerre contre leur pays. Donc, très rapidement, depuis le XVIIe siècle, des autorités religieuses, notamment à Saint-Malo, vont s'interroger sur la légitimité de la course, sur cette espèce de guerre totale qui présente en plus un très grand inconvénient, c'est d'entraîner des représailles de l'ennemi. Vous évoquiez tout à l'heure Drake. Drake est largement à l'origine aussi de l'attaque de l'invincible Armada sur l'Angleterre.
On s'interroge aussi sur son efficacité, parce que dès cette époque-là, vous dites au fond que c'est une espèce d'échec militaire, la course.
La course est évidemment un échec militaire, c'est une réussite économique tout à fait relative. Il y a quelques gagnants dans cette loterie, comme on a dit souvent. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont englouti beaucoup d'argent sans rien gagner. Car on constate, quand on étudie les conflits dans lesquels les corsaires sont partie prenante, on constate qu'effectivement, lorsque les escadres sont puissantes, on n'a pas besoin des corsaires, mais là, ils sont nombreux et ils gagnent bien leur vie à l'ombre des escadres. Mais à contrario, lorsque les escadres sont faibles, les corsaires sont nombreux, eux. Et on voit par exemple que dans la Manche, ils vont subir des pertes considérables.
Alors, critique qui explique sans doute l'interdiction de la course par l'Assemblée nationale pendant la Révolution française, le 1er mai 1792, puis à nouveau elle est autorisée, vous le rappelez, à partir de 1795, tout simplement parce que la marine de la Révolution et de l'Empire est très insuffisante par rapport à la marine anglaise, et puis finalement, eh bien, après Surcouf, la course disparaît, on n'entend plus parler des corsaires jusqu'au XXe siècle où ils réapparaissent pendant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième, lorsqu'en décembre 1939, la flotte anglaise attaquait un cuirassé allemand au large de Montevideo.
Les marines alliées voulant assurer une complète sécurité à leur convoi s'appliquent à détruire les corsaires tels le Graf von Spee. D'après la relation du combat, le navire anglais Exeter, bien moins armé que l'adversaire, après une manœuvre d'une audace inouïe, est parvenu à mettre hors de combat le puissant von Spee, qui dut chercher refuge dans le port de Montevideo.
From Montevideo, cheered by some of the thousands of sightseers along the front, sails the former pride of the German Navy, the Admiral Graf Spee.
Et c'était en décembre 1939 le sabordage du Graf Spee par son commandant après que ce croiseur allemand ait été attaqué par des cuirassés anglais. Est-ce qu'on peut encore parler de corsaires? Vous le dites vous-même, Alain Berbouchier, il y a eu utilisation de corsaires pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, tout à fait, à deux niveaux. D'une part, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des navires civils qui sont armés en course, donc des navires pièges en quelque sorte, des chasseurs également de corsaires. On sait que le docteur Charcot va en commander deux, sans grand succès d'ailleurs. Les sous-marins, bien entendu, font la course, c'est-à-dire qu'ils font la guerre au commerce. Le Graf Spee, c'est un cuirassé de poche qui a été conçu un peu comme ça. C'est un navire donc rapide, extrêmement surarmé pour sa taille, si vous voulez, et il est conçu pour faire un maximum de mal au commerce. Mmh. Hein. Donc on parle de course dès lors qu'on s'attaque au commerce, puisqu'il est admis que les corsaires n'attaquent pas les navires de guerre. C'est pas leur but.
Alors on parle plus de corsaires aujourd'hui, ils ont disparu, et pourtant vous évoquez quand même les pirates qui existent encore aujourd'hui, par exemple au large de la Somalie. Est-ce que ce sont des pirates ou des corsaires?
Bonne question. On revient en quelque sorte au début de notre rencontre. Il est indéniable que pour nous, ce sont des pirates. Pour les intéressés, les Somaliens, ils sont sûrement corsaires. Ils se considèrent en quelque sorte en guerre économique. Beaucoup d'entre eux sont des pêcheurs qui ne trouvent plus.
Mais il n'y a pas d'État somalien.
Il y a des
corsaires, c'est quelqu'un qui travaille pour un État, pour un souverain.
Ou pour un chef de bande, pour un chef de village.
Qui lui donne une lettre de marque, au fond.
Non, là, il est évident qu'ils n'ont certainement pas
ces
instruments-là. Oui, mais ils posent des problèmes à notre légalité dans la mesure où ils invoquent fréquemment l'état de nécessité. Et vous dites, on ne parle plus des corsaires. À Saint-Malo, notamment, on en parle beaucoup. On s'apprête à commémorer le 20e anniversaire du lancement de la réplique du Renard, notamment au mois de mai prochain. Il y a une association des descendants de capitaines corsaires qui est extrêmement vivante. La Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Malo, dans ses conférences mensuelles, fait régulièrement des conférences sur la course. Et l'association donc, qui gère notamment le vaillant petit renard, que l'on a vu à Paris d'ailleurs au mois d'avril 2006, au moment du TGV allant vers Saint-Malo, est une association extrêmement vivante. Et je peux vous dire qu'à Saint-Malo, la réplique du corsaire, qui navigue, d'ailleurs on peut embarquer à bord, a beaucoup de succès auprès des touristes. Mmh. Il tire vaillamment ses coups de canon à blanc qui résonne le long des remparts.
Il y a aussi, vous on les voit en photo dans votre livre, beaucoup de navires de la marine nationale qui portent ou qui ont porté des navires ultramodernes qui portent ou ont porté des noms de corsaires. Il y avait le Jean-Bart, le Duguay-Trouin aussi.
Le Cassard, effectivement, oui, Jacques Cassard, qui est un très grand homme de mer aussi, qui meurt un peu fou d'ailleurs, mais qui a été un très grand corsaire, capitaine de vaisseau d'ailleurs, il a intégré la marine royale aussi. C'est le grand corsaire nantais.
Est-ce que ça a été efficace? Parce que vous venez de dire que non, mais en fait, pourquoi alors est-ce que ça a duré pendant 3 siècles comme ça?
C'est la libre entreprise. C'est la libre entreprise. C'est le libéralisme, l'économie de marché de l'époque. Non, ça n'est évidemment pas efficace du point de vue militaire. Jamais la course n'a gagné de guerre. À l'apogée de la guerre de course dans les années 1690, à Saint-Malo, par exemple, qui est la grande ville corsaire avec Dunkerque, songez que les Anglo-Hollandais attaquent 3 fois la ville de Saint-Malo.
Merci Alain Berbou. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Pirates, flibustiers et corsaires qui a été publié chez Pascal Pascal Gallaudet Éditions a également publié Marine et Justice, la justice criminelle de la marine française sous l'Ancien Régime, publié aux presses universitaires de Rennes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Elisabeth, l'âge d'or de Shekhar Kapoor, disponible en DVD chez Studio Canal. Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit de Gore Verbinski, disponible en DVD chez Walt Disney Home Entertainment. Et Surcouf, tonnerre de l'océan Indien de Sergio Bergonzelli et Roy Roland. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainviel, Dimitri Gronoff, Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal.